Bonjour et bienvenue dans la bande originale avec Morgane Cosignol, Guillaume Auguste, avec Tom Villa, Daniel Morel également. Et notre invité aujourd'hui, c'est Alexandra Lamy.
Enfin.
Alexandra Lamy qui vient nous présenter Le Test en salle la semaine prochaine, le 29 décembre, au cinéma, un film d'Emmanuel Poulain. Arnaud, où elle incarne une mère de famille très, très consciencieuse, très appliquée, peut-être trop présente dans la vie de ses enfants.
Ou mettre la limite.
On va raconter tout à l'heure un tout petit peu l'histoire avec elle. Blind test pour, avant de l'accueillir. Vous êtes prêts?
Oui.
Guy.
C'est Guy qui a crié en premier.
Abba.
Bravo. Abba. Le titre?
Mamma Mia. Mamma Mia, absolument. Bien joué.
Ça sent les mamans.
Si. Titre.
Bravo, il est horrible. C'est un titre qui est immonde.
Bah, c'est plus, pas moi qui l'ai dit.
À deux jours de Noël. Non,
tu peux pas.
En plus, il l'a dit avec une joie.
Un petit air, effectivement, un peu coquin.
Premier point pour Guy, ça se fête. Et il n'y a pas eu de contestation, Guy.
Mais tu t'arrêtes là?
Je pense que quand Nagui n'est pas là, je trouve que les choses sont un peu remises à plat.
Remises à plat.
Ou alors tu rappes apparemment la grammaire, pas tout à fait. Allez, deuxième titre.
Daniel.
Oui.
Non, Tom, Tom. Ouais.
Bravo.
Moi j'aime quand il y a du fun.
C'est la version espagnole?
Non, allemande.
Comme un rito en l'occasion. Ah ouais, pourquoi
non,
se
passent
une et autre vez.
Pourquoi?
Ça faut demander à notre réalisateur. C'est son choix.
Bah,
Jérôme est très très taquin cette semaine. Deuxième point. Enfin, premier point pour Daniel. Troisième titre.
Guy.
Oui.
Oxmo.
Bravo. Et éventuellement qui d'autre?
Si tu... avec
mais je te le donne.
Ah, non, je sais. Avec.
Mr. Bombastic.
Non.
C'est pas lui?
Bah si.
Dis-moi
ça commence par un
S avec le frère de.
C'est le nom d'une pyramide.
Kakeops.
Avec Kakeops, absolument. Oxmo Puccino.
La pyramide de Kenneth, évidemment. La bien connue, ouais.
Oxmo et Kakeops pour Mamma Lova. Deuxième point pour Guy. On continue.
Daniel.
Ouais.
Toto.
Non.
Non.
Vous le connaissez.
Phil Collins.
C'est pas loin.
Genesis.
Ouais, ah, Daniel. Bravo. Le titre, Daniel?
Mama.
Mama de Genesis.
Un bel hommage que vient de rendre Julien. Même lui, ça le fait rire.
Attention, là, ça va être très, très...
Rapide?
Ouais.
Daniel.
Oui. Vite.
Maman en danger.
Bravo.
Ce garçon a quand même une culture.
Non, même pas.
Non, mais non, là-dessus, il a une très mauvaise vue. Donc, franchement.
Non, il a ses lunettes.
Ah merde.
Lunettes magiques.
3 points pour Daniel sur ce Dorothée de maman.
Pas de Genesis à Dorothée, il est hyper souple.
Allez, ça aussi, c'est très facile, c'est de la rapidité.
Morgane.
Ouais,
c'est Mathieu Chédid.
Bravo. Et le titre?
Mama Sam.
Bravo. Très beau point.
Ah, joli point. Ouais.
Non, 9 points, c'était dégueulasse.
Ouais.
Non, c'est ce que j'ai compris.
Non, je ne connais pas l'Afrique.
C'est pas ce que tu fais, Morgane.
J'ai fait les cœurs.
C'est ça, ouais.
C'est Morgane.
C'est dégueulasse.
Non, t'as fait le foie à la limite, mais le cœur, non.
Elle a marché sur les chenilles.
Je récapitule 2 points pour Guy, 3 points pour Daniel. Mm. Tom, t'as pas marqué?
Non, j'ai pas démarré encore.
Moi, Morgane, un point, je pensais que je t'avais oublié, mais pas du tout.
Démarrage en côte.
Bon, alors ça se joue sur ce dernier titre. C'est parti. Super banco. Perso, je l'avais
Kenji
déjà.
Kenji Girac.
Non.
Tom, Luan.
Non.
Sur mon corps. Morgane, c'est
Tom,
Claude Cabello. Non, mais j'ai fait ça, j'ai fait le geste de l'accordéon, merde.
Alors, je le donne à Tom, Claudio Capeo, et c'est une victoire.
Le voleur.
Ah, bien vu, Tom.
T'es un diable sorti de sa boîte.
C'est un vol, mais c'est sublime.
Ça s'appelle un carreau. Super.
Alexandra Lamy, s'il vous plaît.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadou.
Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans la bande originale. On est ravis de vous accueillir dans cette semaine de vacances.
On est bien chez vous, on se sent bien.
Ouais, c'est Noël, c'est bientôt Noël. Et on va parler d'un beau film, Le Test, qui sera en salle le 29 décembre. Un film réalisé par Emmanuel Poulain-Arnaud, où vous partagez l'affiche avec Philippe Catherine, avec Joachim Fossi, Matteo Pérez, Chloé Barkov-Gaillard. Il faut les citer parce
Oui, complètement.
C'est toute la famille réunie et pas n'importe quelle famille. Déjà, c'est une très très belle affiche. C'est un très beau film. Oui. On a beaucoup ri, on a été ému aussi avec ce test. L'histoire d'une famille. Vous êtes à la tête de cette famille. On va dire que vous êtes une sorte de bourgeoise de province. C'est comme ça, en tout cas, que je vous représente.
On sait accueillir, nous.
Vous avez quatre enfants. Ça va du plus petit, je sais pas, qui doit avoir 5-6 ans.
Oui, exactement. Voilà.
Voilà. Un beaucoup plus grand qui fait des études supérieures.
Complètement.
Et vous êtes cette mère assez incroyable qui est toujours là pour ses enfants, qui s'occupe beaucoup des enfants, peut-être même un peu trop.
Ouais, je pense même qu'elle s'oublie un peu.
Voilà, qui ne lâche jamais rien, qui est dans une sorte de contrôle absolu et qui est mariée avec un gériatre incarné par Philippe Catherine.
Qui est absolument génial. Mais voilà, mais écoutez, vous avez tout dit, mais c'est merveilleux. Non mais j'adore ce film. Vraiment, je trouve que Emmanuel a fait une petite pépite, c'est-à-dire qu'il a réussi à résumer en 1h20 toute une chronique familiale, les enfants, et vous avez raison de les citer, parce qu'ils sont extraordinaires. Même nous, on a eu l'impression, parce qu'on a vécu pendant le confinement et aussi le couvre-feu, donc on était très ensemble, on a l'impression d'être complètement une famille. Moi, j'avais l'impression que c'était mes enfants, un peu de schizophrénie même. Et je trouve qu'il a réussi à faire des ascenseurs émotionnels incroyables. On rit, on pleure, on a envie d'être dans cette famille, on est cette famille. On a même envie encore d'avoir des enfants derrière, alors que bon...
Alors qu'on s'est dit qu'on arrêtait.
Alors qu'on s'est...
Non,
pas de nouvelles annoncées.
Un petit dernier, je sens un peu gonflé là.
Non,
on sait recevoir, on est bien ici.
Et un mois et demi au Maroc, j'ai mangé beaucoup de tagines et de couscous.
Daniel n'en rajoute pas. Tu vas prendre un hashtag sur la gueule encore.
Et vous aussi, Alexandra, vous êtes étonnante dans ce film. Je crois que c'est la première fois que je vous vois comme ça.
Bien joué.
Brune.
Non, je dis pas que vous... Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas... Je remets pas en cause vos qualités d'actrice.
Non, mais pas du tout, je le prends pas comme ça. Mais
je dis simplement que là, ce que vous montrez dans ce film, c'est très différent de ce que vous avez fait par le passé. Je parle pas de la notion de comédie, on vous a souvent estampillé comédie, on le sait, un gars, une fille, ça a été vos débuts, c'est ce qui a fait que vous êtes devenue la meilleure copine de tous les Français très très rapidement. Vous avez eu l'occasion de jouer dans d'autres films, des drames par exemple, mais là, je ne sais pas comment vous l'expliquer, je vous trouve très différente dans ce long métrage.
Ben aussi, c'est un réalisateur aussi qui est derrière. Hein, et c'est rare d'avoir un réalisateur, d'abord, qui a une vraie direction d'acteur, qui nous a aussi laissé une vraie liberté, mais en même temps, tout était cadré, tout était écrit. Il nous a vraiment poussé. Moi-même, au début, il m'a un petit peu perturbée. La première semaine, j'étais un peu... Ouais, un petit peu, parce que évidemment, j'allais dire, je suis vieille comédienne, j'ai 25 ans de carrière, donc forcément, on a des béquilles, on a des petits tics,
des habitudes.
Et qu'on connaît surtout dans la comédie. Donc on maîtrise un peu, on a un peu le côté, attends, s'il te plaît, la comédie, ça va, je connais, ça fait 20 ans. Et en fait, non, il m'a complètement cassé.
Qu'est-ce qu'il a
changé ? Même déstabilisé. Ben justement, de rien jouer, en fait. Enfin, de rien jouer. Justement, de rien appuyer. Et d'ailleurs, c'est là où on sent que son film est extrêmement élégant. Et c'est très difficile d'en parler avant, parce qu'on a peur de spoiler, mais il y a plein de sujets, en fait, dans ce film. Et c'est un film à voir en famille, parce qu'on a eu même le prix des lycéens, parce que les jeunes, ils adorent le film. Ouais. Parce que vraiment, en plus, ça parle vraiment aux jeunes. Et il a laissé, justement, une vraie liberté aux jeunes qui parlent avec leurs mots. Donc, il n'y a pas de clichés, il n'y a pas de... Et quand on sort de ce film-là en famille, on peut avoir des très bons débats, qui ne sont pas des débats qui partent dans tous les sens, mais parce qu'il aborde plein de sujets, mais c'est jamais engageant, c'est jamais appuyé, on
c'est
juge
pas, moralisateur.
Pas, c'est pas moralisateur, ouais. C'est la vie.
Le film s'ouvre sur une séquence très très drôle, vous attendez pour rencontrer l'enseignant de votre petit dernier, et vous êtes en train d'échanger avec une maman que vous connaissez bien, et chacune est persuadée qu'elle a un petit génie en fait, entre les mains, et qu'il faut lui faire sauter une classe, qu'il a de l'avance.
On a tous eu ça. Hein,
parce qu'il voit les pédopsychiatres qui pensent qu'il a 3 ans et demi, mais qu'en fait intellectuellement il a 4 ans, c'est quand même 6 mois de plus. Donc éventuellement on pourrait gagner une classe. Et toutes ces mères qui sont là en train de se renvoyer la balle sur les problématiques de leurs enfants. Elle n'est pas anorexique, elle n'est pas boulimique. Elle s'écoute, elle a besoin de se purger comme les chats. Donc il y a aussi déjà toutes ces premières problématiques de parents, qui ouvrent le film.
On sent que sa copine, elle amène un petit cadeau
bien sûr. Oui, les mamans
complètement corrompues.
Les mamans qui gâtent les institutrices, les professeurs des écoles, ou alors les secrétaires médicales, ça marche aussi pour ça, pour avoir des rendez-vous. Je donne mon petit truc. Tournée de chocolat en décembre.
La minute débrouille avec Leïla.
C'est la minute Madame Cadourmer. Et ensuite, vous avez donc parmi la famille nombreuse avec vous, il y a une jeune fille, Poppy. C'est ça,
ouais, Poppy, complètement.
Qui fait de la JRS. On essaie de faire un peu le portrait de la famille, qui est une jeune fille a priori sans problème, tout va bien. Celui qui est juste au-dessus est un grand amoureux.
Ouais,
il est hyper touchant.
Mathéo,
lui, il veut se marier, il ne la lâche pas d'une seule seconde.
C'est vraiment le romantique.
Et puis on a l'aîné qui est une sorte de petit virtuose musical qui semble faire de grandes études, qui est roux aussi comme vous d'ailleurs. Hein,
parce on est une petite famille de roux.
Petite famille de rouquins. Petite famille de rouquins. Et donc voilà, tout le monde prend sa place dans cette famille. Et puis on revient à Philippe Catherine quand même, qui consulte à domicile. Son cabinet est à la maison, ce qui fait que dans la salle d'attente, il y a un certain nombre de personnes plutôt âgées qui évoluent. Le couple semble s'entendre, mais ça va pas plus loin.
Il vit à côté, je pense.
Ouais.
Ils vivent plus ensemble, enfin ils sont côte à côte.
Un couple quoi.
Ouais.
Non.
Ça va Daniel? Non. Ça va toi sinon?
Faut que je parle.
Faut que tu partes, ça n'a rien à voir.
Aussi peut-être.
Ils ont de la tendresse, ils semblent s'aimer, mais en tout cas ils semblent occuper des places plutôt dans la famille, plutôt que de former un couple.
Puis elle est un peu dans l'apparence aussi, c'est-à-dire ce qu'elle dit d'ailleurs. Elle dit, mais regarde, apparemment on est une famille heureuse. Elle est prête même à accepter plein de choses pourvu que l'apparence soit là. Vu qu'on montre, mais ça c'est un peu, j'allais dire, un peu province aussi. Oui. Moi qui viens de la province, il y a un peu de ça. Oui. C'est même d'ailleurs aujourd'hui un peu les Instagram. On se fait des photos pour montrer qu'on passe des super vacances, alors que finalement, une fois qu'on a passé le téléphone, tout le monde s'emmerde.
Vous voulez parler, vous aussi? Qu'est-ce qui se passe ce matin?
Qu'est-ce qui nous arrive, Daniel? Je ne comprends pas, Daniel.
Il faut qu'on parle.
Voilà, on a planté un peu le décor avec cette famille rêvée extérieurement, mais forcément, il va y avoir un élément qui va venir bouleverser la donne, mais ça, on en parle après Morgane Cadignan, parce que vous le savez, Alexandra Lamineau, autour de cette table, on vous aime.
Tous.
Il n'y en a pas un qui m'aime un peu moins.
Attendez. Si, justement, c'est Morgane Cadignan.
Le Grinch.
Allez.
Comme Alexandra fait les transitions, c'est merveilleux.
Vas-y, maman.
Alexandra Lamineau, je vous aime pas, mais c'est pas de votre faute du tout. C'est juste que j'aime pas cette journée. On est le 23 décembre, les amis, et j'ai déjà le blues de l'après-Noël, alors que c'est pas passé. On est le 23 décembre, et je regrette déjà d'avoir trop mangé et d'avoir mal parlé à l'intégralité de mes proches. Lire votre biographie, ça renforce ma honte parce que pendant que je me goinfre, vous travaillez. Vous avez tourné dans autant de films que je goberai de mendiants demain. Alors les mendiants, je parle des chocolats avec des petites amandes dessus. Hein, parce que gober des mendiants le soir du réveillon, sinon ça devient un drôle de conte de Noël porno sur quelqu'un qui abuse sexuellement des SDF. Et Alexandra, je vais pas continuer de filer la métaphore précédente. Vous avez tourné un nombre de films impressionnants. J'ai lu que la moitié de votre filmo et ça a fait exploser mon temps d'écran. Des téléfilms, des programmes courts, du théâtre en 2021, un clip de Pascal Obispo, sûrement pour ce dernier que vous avez été médaillé chevalier de l'ordre et du mérite, bravo. Dans le film Le Test, vous jouez une mère de famille qui panique en trouvant un test de grossesse dans la poubelle de la salle de bain. Et moi, ça me fait dire que 2000 ans d'humanité, on n'a toujours pas compris qu'il ne faut pas jeter le test dans les corbeilles de salle de bain, en fait. Non, mais si ça fout la merde dans tous les films et toutes les séries, c'est quand même qu'on cherche un peu. Si à 14 ans, t'arrives à cacher le mégot tout en dessous des déchets, mais fais pareil avec le test, enfin. Je suis enceinte par accident, je vais donc poser la preuve bien à plat, tout en haut, à la vue de tous. Bon, ceci dit, c'est mieux de jeter le test que de l'offrir au papa pour lui annoncer, ça j'ai jamais compris, c'est d'une violence. Surtout que dans 100% des cas, les gars tiltent pas tout de suite, en fait. Bah, pourquoi tu me donnes une grande touillette qui sent le pipi, ça veut dire quoi? Faut que j'aille acheter du café, c'est ça? Tu veux des plus grandes tasses? Dis-moi ce que ça veut dire, ma chérie, je comprends pas. C'est quoi la croix bleue et blanche? On va en Grèce? Et non, Gauthier, tu n'iras plus jamais en Grèce, seul avec ta meuf. C'est ça que ça veut dire. Le pire, c'est que les filles qui emballent le test pour faire une présentation un peu stylé. Le mec qui voit une jolie boîte arriver se dit putain, une Rolex. Eh ben non. Déjà, c'est pas une montre. En plus, t'auras le cadeau dans 9 mois. Et en plus, c'est un cadeau qu'autogère pas son caca. Puis toutes les femmes, pour toutes les femmes, j'ai l'impression que le test de grossesse, ça représente quand même une angoisse. Qu'il soit positif quand tu veux être enceinte, qu'il demeure négatif quand tu tentes de l'être et que ça marche pas. On devrait être comme les animaux. Ils s'emmerdent pas avec ça. J'ai jamais vu une poule pisser sur un test avant de pondre un œuf. J'ai jamais vu une poule pisser tout court. Hein. Je suis là tous les jours. Je découvre pas le monde. Je passe à côté de ma vie. Bref, mesdames, vivons nos vies comme des vaches, s'il vous plaît. T'es là, tu gambades, tu bouffes du foin, un peu d'herbe le week-end. D'un coup, tu t'allonges, tu gueules un coup et bam, un veau. Et après, vous gambadez tous les deux joyeusement jusqu'à ce que Charal s'intéresse à vous pour une collab. Bref, le test, l'objet, non. Le test, le film, c'est un grand oui. C'est drôle, c'est tendre. Ça me donne presque envie d'avoir une famille nombreuse. Par contre, si je suis enceinte, essayez de me le dire le plus tard possible.
Bravo, Morgane Cadignan.
Bravo.
Merci. Le test en salle le 29 décembre. Et en effet, voilà ce qui vient bouleverser la donne de cette famille plus ou moins heureuse, en tout cas en apparence assez parfaite. C'est la découverte d'un test de grossesse dans les toilettes, dans la corbeille des toilettes. Et maintenant, il faut déterminer à qui il appartient.
Exactement. Et elle va mener son enquête.
Elle va mener son enquête. Alors, a priori, ça ne peut pas être les patientes de Philippe Catherine. Il est donc
gériatre.
C'est dans le film.
Bon, ça, c'est éliminé.
Ça, c'est de côté. Voilà. Et donc, il reste quand même pas mal de possibilités. Il y a 3 enfants.
Voilà, plus les petites copines d'un de mes enfants. Voilà.
Et là, on découvre en fait que certains, le plus âgé a une activité sexuelle plutôt intense.
Ça, c'est très, très drôle. Le début est tellement merveilleux. Philippe Catherine, là-dedans, c'est génial.
Il suit,
voit toutes ses filles. C'est merveilleux. Il adore. Là-dedans.
Il se dit, cette vie que j'ai ratée, mon aîné est en train de l'analyser.
C'est ça. Alors, moi, ce que j'adore aussi dans ce film-là, c'est que elle qui est au centre normalement de la famille, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a l'impression qu'elle connaît toute sa famille, mais en fait finalement non, elle qui est au centre, qui normalement doit connaître tout, qui gère tout, qui est l'administratrice même du planning, finalement c'est elle qui, on se rend compte au fur et à mesure que c'est peut-être elle qui connaît le moins. Et son mari, alors on peut pas spoiler, etc. Ouais. Mais finalement, c'est peut-être lui qui connaît le mieux sa famille et qui. Donc c'est assez intéressant parce que tout ce que tu penses n'est pas forcément ce que tu. Enfin, voilà, c'est difficile parce que on peut pas. C'est pour ça que je dis raconter. C'est très difficile de parler de ce film avant, mais.
Non, mais en tout cas, c'est.
Non,
c'est
mais allez-y, vous comprendrez. Hein,
non, mais allez-y, vous allez
très, très mal.
Non, mais c'est vrai que c'est une figure maternelle qui en impose.
Mais oui.
Et donc on peut se dire que légitimement, les enfants vont pas forcément avoir envie de tout lui raconter.
Ah bah c'est sûr, ça donne pas du tout envie.
Parce qu'elle s'investit, parce que c'est son métier, maman, en fait.
Mais exactement. Alors, il y a des moments où c'est fabuleux, parce que, évidemment, dès que son fils va pas bien, elle est la première à y aller, à être sur place, et c'est super beau. Mais en même temps, elle a quand même un peu envie de savoir ce qui se passe, et d'intervenir, et elle prend trop de place.
Ouais. Morgane ?
Non, vous l'avez dit tout à l'heure très très rapidement, mais je voudrais ressouligner le fait qu'il y a plein de jeunes qui jouent vos enfants et qui jouent les petites copines, et il n'y en a pas un qui parle de manière cliché comme des jeunes.
Ouais.
Et c'est hyper agréable qu'il n'y ait pas de verlan hyper faux.
Et ça, il faut souligner, le scénario est donc coécrit par le réalisateur Emmanuel Poulain-Arnaud et Noé Debré sur une idée originale de Thibaut Van Hul. Voilà, ça c'est pour l'équipe, l'équipe qui est à l'écriture et qui fait en effet en sorte qu'on n'est pas dans un cliché de la famille, de l'ado.
Mais c'est pour ça que là, pour avoir fait des tournées provinces, etc., on a des retours, mais il y a plein de gens qui nous disent c'est une des meilleures comédies que j'ai vues, mais vraiment, parce que je trouve que c'est tellement juste, c'est tellement élégant, c'est tellement fin, il n'y a jamais de clichés. C'est incroyable le travail qu'a fait Emmanuel.
C'est vrai, c'est une véritable réussite. C'est la bande-son de cette famille.
Et en plus, franchement, la BO, elle est démente.
Dans la BO, notamment,
on a... Ça a l'air bien, ce film.
Non, mais c'est... Honnêtement, franchement, celui-là, j'ai tellement envie que les gens aillent le voir. Vraiment, au-delà du fait que je prends beaucoup d'argent sur chaque place vendue. Non, pas du tout.
Les masques tombent.
Non, pas du tout. Non, honnêtement... Mais honnêtement, parce que je trouve qu'il est tellement bien fait, réussi. Et alors, en plus, période de fête, je trouve qu'il y a le côté familial. Enfin, voilà, c'est un petit bonheur, c'est un petit bijou, quoi.
Une famille qui s'entend quand même plutôt bien, ça fait du bien aussi.
Ils sont tendres entre eux.
Et puis des véritables thèmes de société, vous l'avez évoqué, c'est que tout d'un coup, la mère découvre que son aîné a une activité sexuelle un peu débordante.
Complètement.
Elle se demande comment est-ce qu'il gère ça, il ne lui en parle pas, on ne sait pas ce qu'il consomme par ailleurs comme autre produit. Donc tout d'un coup, c'est vraiment une immersion dans l'adolescence. l'adolescence, qui est un âge pas forcément évident. Vous avez eu une ado, vous avez une...
Oui, oui.
Une, voilà.
Ça va mieux maintenant. Je m'en sors.
Derrière.
Tout ça est derrière.
Elle est en prison. Elle est surveillée.
Et donc, on a autant ce Don Juan à la tête de la famille dans la fratrie. Et puis, on a tout de suite après un autre jeune homme qui, lui, est beaucoup plus tendre et romantique, qui imagine que sa vie est faite.
Oh,
ah oui, oui. Mais, et justement, quand ça fait mal, ça fait très très mal.
Ah
oui,
ça fait très très mal.
Voilà, et il est complètement amoureux. Et voilà. Est-ce que c'est pas la chanson de l'amour?
C'est la chanson quand l'amour s'en va.
Ah bah oui, mais c'est ce qu'il dit.
Non, moi celle-là, je suis déjà parti.
Tu l'écoutes pas au début, celle-là.
Je peux même expliquer que forcément, il se fait larguer. Il y a un moment, il faut que ça arrive. Mais lui aussi, donc il y a un doute. Est-ce que c'est lui, éventuellement, le père de cet enfant? C'est sa copine qui aurait fait ce test de grossesse qu'on retrouve dans les toilettes de votre maisonnée. On ne sait pas, on ne sait pas. Vous menez l'enquête et nous aussi.
Ouais, complètement.
Ce qui est aussi pas mal dans le film, que c'est pas transparent. On se dit pas tout de suite j'ai compris forcément.
Ouais,
ouais. Il y a une véritable surprise dans le film.
Oui, complètement. Et puis en même temps, il y a dans cette enquête encore une fois, c'est un moyen aussi de découvrir aussi qui sont sa famille et même elle.
Oui.
Parce que finalement, elle aussi, c'est assez intéressant. Parce que, comme vous disiez très justement, c'est une femme qui s'est dit bon, ben maintenant, ça y est, je vais être une maman, je vais être une adulte, je vais être une famille. Donc, elle s'est complètement oubliée, en fait. Et grâce à ça, j'allais dire, finalement, elle se découvre aussi. Enfin, c'est surtout que d'un coup, elle se lâche. Et surtout, ça, c'est un truc qui est très provincial, j'allais dire, mais et qu'on a aussi, c'est le jugement.
Oui,
c'est-à-dire que comme moi, pour avoir vécu en province, évidemment, comme on parlait tout à l'heure, de l'apparence et le jugement de l'autre. Et donc là, d'un coup, enfin, elle n'a plus, enfin, elle s'en fiche, quoi. Elle a même une histoire avec un petit jeune.
Elle est débarrassée, voilà.
À un moment donné, elle se laisse complètement, ça y est, elle s'en fiche du jugement, elle se laisse complètement porter, elle est complètement désinhibée, enfin, quoi. Et on en a presque envie aussi. Et parce qu'au début, elle nous irrite un peu.
Elle est un peu serrée, un peu collée.
Et puis en fait, elle finit par nous toucher parce qu'on se dit, elle s'est mis tellement de pression, elle s'est tellement bloquée que le moment où elle se débloque, on est avec elle et on se dit, mais oui, mais vas-y.
C'est un film libérateur.
Elle a eu une jeunesse et cette jeunesse est un peu ressuscitée grâce à la rencontre du voisinage.
Ouais, exactement.
Parce qu'avant d'être cette mère de famille très rigoureuse, très carrée, très organisée, parce que entre déposer les enfants au sport, chez le pédopsychiatre, les récupérer à l'atelier de musique pour qu'ils aient accès à un peu de toutes les choses, elle a été à Berlin, assister à des concerts, elle a été jeune, elle s'est amusée.
Ouais. Elle a été jeune avant d'acheter des Geox.
C'est ça.
Mais oui, il y a un moment donné où tu...
Il respire.
On l'appelle le Velux, Daniel.
Complètement. Trois ouvertures.
Non, il ne faut pas de sous-vêtements, arrête.
Elles en font plus.
Bon, on l'appelle le Velux. Vous vous êtes reconnue dans cette femme?
Bah ouais, il y a un moment donné, bah oui.
Vous n'avez pas la même vie, vous, Alexandra. C'est pas la
même
vie.
Non, j'ai pas eu la même vie, mais après deux séparations, parce que moi je change tous les 10 ans.
C'est
bien. J'ai eu la quarantaine, un peu où je me suis un peu libérée, et on parlait justement de jugement, où justement je suis partie à Londres, et à Londres on a un peu cette liberté-là où les gens s'en foutent complètement, en plus on ne connaissait pas, et ça m'a fait un bien, justement, en plus à 40 ans où. T'es moins dans un stress parce que tu bosses, tu gagnes ta vie, enfin tu vois, t'es déjà un peu, tout ça roule un peu, et du coup d'avoir cette liberté là, ça m'a fait tellement du bien à 40 ans. Donc ouais, moi je comprenais complètement cette femme.
Se lâcher avec les voisins, par exemple. Voisins, par exemple. On peut pas raconter cette séquence avec cette musique.
Il y a une pub pour du café.
Mais peut-être que tout d'un coup, cette mère commence à poser un regard plus juste sur ses enfants et se rend compte qu'en fait, ce ne sont plus des bébés.
Ouais, c'est ça.
C'est peut-être ça.
Il y a un peu de ça aussi. Hein. On sent qu'elle a tellement peur aussi. Il y a un peu ce côté aussi, je pense, c'est pour ça même avec son mari, où à un moment donné, on sent que le couple vit à côté et qu'il n'y a plus d'amour, mais qu'elle préfère rester parce qu'elle a peur de rester seule aussi. Mm. C'est quelqu'un qui a très très peur de rester seule, et ça, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Hein. On peut avoir peur. Moi, maintenant, par contre, quand on a goûté d'être le célibat, on est hyper bien. On n'a plus du tout envie de revenir. Mais il ne faut pas avoir peur d'y aller. Hein. bien. Mais une fois qu'on est célibat, on fait ouais, c'est quand même plus. Vraiment pas mal. On ne m'y reprendra plus.
On pourra isoler cette phrase.
Ça y est, c'est bon, j'ai fait les gratins, j'ai amené les enfants, l'école, les hôpitaux, les urgences, c'est bon, tout ça on a fait. Mais
Vous êtes sûr que ça va, Alexandra?
Oui, ça va aller.
Ouais,
ça va aller.
Juste ça va aller. Très bien. Elle est en train de te dire que ça va beaucoup mieux toute seule.
Avec une petite larme à l'œil quand même.
Non, pas du tout. Mais effectivement, elle a peur de ça. Et donc, elle était prête à tout. Et puis, effectivement, d'un coup, elle voit ses enfants grandir. Elle voit d'autres choses de ses enfants. C'est plus des bébés, ils ont grandi. Que évidemment, à un moment donné, ça va partir et que ça va être terrible. Et donc, je trouve que, alors c'est toujours très difficile d'en parler, mais voilà, il y a tout ça aussi qui est dans ce film-là. C'est pour ça que je trouve que c'est génial de pouvoir en parler après avoir vu ce film-là.
C'est un peu un film sur l'épanouissement aussi.
Ouais, complètement.
Complètement.
Et puis, c'est une nouvelle crise d'adolescence.
N'est-ce pas, Daniel?
Pulitzer.
Et Daniel.
Je vais vers le luxe, je peux dire que moi, je respire.
Le masque, il a plu.
Je respire. Ça fait un bien fou.
Qu'est-ce qu'il est précis?
C'est un peu votre crise d'adolescence, votre personnage aussi.
Ah ouais.
Parce que finalement, c'est la redécouverte de la sexualité, parce qu'on sent que ça faisait longtemps que ça n'avait pas lieu.
Elle le dit, moi, j'étais complètement asexuée. Voilà, c'est la. Et ça va beaucoup mieux. Là, elle s'explose, quoi. Elle s'éclate.
On continue à parler du thème. En salle, le 29 décembre, un film d'Emmanuel Poulain-Arnaud avec Alexandra Lalamy en grande, grande forme.
Lalamy d'ailleurs.
Qui partage. Lalamy, c'est ça? Alexandra Lalamy. Qui partage l'affiche avec Philippe Catherine, Joachim Fossi, Matteo Pérez, Chloé Barkov, Gaillard. Et tout de suite dans la bande originale, c'est Tom Villa.
Dis donc.
Ouais.
Eh oui, ça va, Tom?
Ah, Tom.
Et aujourd'hui, on va décerner le prix de la recherche de l'année. Alors, recherche internet, pas recherche vaccin ou prix Nobel. Non, juste les mots les plus cons qu'on a tapés sur un moteur de recherche qu'on ne citera pas, mais qui commence par goût et qui finit par gueule. Pas de nommé, puisque Google s'est occupé de tout, et donc on a sorti les top 5 dans toutes les catégories, les choses les plus recherchées en France. Alors, je vais pas vous surprendre, la moitié de toutes les recherches en 2021 sont liées au Covid, et l'autre moitié au vaccin. Par exemple, dans la catégorie questions, on a parmi les plus recherchées comment obtenir le pass sanitaire. C'est là où on se dit, on est en 2021, parce qu'en 1970, à mon avis, la première question aurait été quelle drogue pour faire l'amour, mais bon, voilà. Bizarrement, en deuxième position des questions les plus posées en 2021 sur Google, on a la preuve qu'on a un vrai retour à la nature, un mélange d'exode et d'ennui. C'est pourquoi les tronçonneuses ont été inventées. Voilà, alors la question peut paraître bête, en même temps voilà, on va essayer de couper un sapin avec un canif, tu vas voir pourquoi elle a été inventée. Et en même temps, grâce à Google, j'ai découvert qu'à la base, la tronçonneuse a été inventée au 18e siècle pour faciliter les accouchements difficiles. Je vous jure que c'est vrai, pour agrandir le bassin. Donc on se plaint de l'état de nos hôpitaux.
Si,
je vous jure que c'est vrai. Si. Mais au 18e, voilà, la sage-femme, elle arrivait avec une barbe, une chemise à carreaux, la toque de David Croquette. Voilà, c'était pas un accouchement, c'était un déménagement. Troisième recherche Google, on a qu'en parle Macron. Donc là aussi, lié à la pandémie, on se sent un petit peu familier. En fait, je suis sûr qu'en 2020, les gens demandaient à Google quand est-ce que parle le président de la République Emmanuel Macron. Après 5 vagues, c'est quand parle Macron. Et pour la 10e vague, ça sera quand est-ce qu'il parle l'autre con. Il y a aussi alors les catégories des recettes les plus recherchées sur Google. Ah. Galets des rois, ail des ours, bœuf bourguignon, tartatin, moule marinière, hachis parmentier, cookies. Je vais m'arrêter sinon je vais vomir. C'est là où on sent qu'avec le Covid, on n'a plus rien à foutre. Logiquement, sans Covid, il devrait y avoir salade de l'été, carpaccio de tomates, tian de légumes. Là, quand t'es à rechercher des recettes à base d'ail des ours.
C'est clair.
C'est vraiment que tu vis en pyjama et que tu télétravailles, quoi. Toutes ces recherches culinaires ont débouché évidemment sur la 5e recherche Google de l'année, et c'est comment calculer son IMC, indice de masse corporelle. Donc la réponse, c'est le poids divisé par le carré de la taille. Voilà, donc je sens qu'à Inter, on n'est plus sur des littéraires que sur des matheux. Si vous êtes nul en maths, le plus simple, c'est de voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Si par exemple, demain à Noël, on vous demande, mesdames, si vous êtes enceinte, ou messieurs, de retirer votre doudoune alors que vous êtes en t-shirt, c'est que vous êtes gros. Voilà. Les tops dans les recherches Google sur les personnalités publiques aussi. Alors, je vais vous décevoir, autour de cette table, on n'a pas été recherché par...
Comment ça?
Dans le top 5, il y a, véridique, Harry Habitant, Olivier Duhamel, Richard Berry. Voilà, donc tu sens que les personnalités publiques, elles sont adulées, mais les Français aiment bien quand elles se cassent un peu la gueule. Voilà. Dans la catégorie des acteurs, actrices les plus recherchés en France, d'ailleurs même dans le monde, et d'ailleurs par la police, Alec Baldwin. Une petite roulette russe, ça relance une carrière. En 10e position des chanteurs les plus recherchés sur Google, véridique, Marcel Amont. Donc première nouvelle, les fans de Marcel Amont ont internet. Dans la catégorie des qui, on se rend compte des vraies préoccupations des Français. Qui peut se faire vacciner? 2, 3e dose pour qui? 3,
vaccin Moderna pour qui? 4, vaccin Pfizer pour qui? 5, qui a été éliminé de Danse avec les Stars? C'est bizarre cette question. Il y a un côté, je regarde pas, mais je veux quand même savoir. Tu sais, je veux quand même avoir une petite discussion à la machine à café le lendemain. Et dans la catégorie des définitions, les gens ont cherché en première et en deuxième place survivaliste et demi-jauge. Alors, demi-jauge, je pense que la réponse de Google, c'est bah, t'es con ou quoi? Parce que c'est, bah oui, une demi-jauge, il y a des indices dans les deux mots, donc voilà. Et survivaliste, vous savez, c'est ces gens qui font des murs de PQ et des tabourets en sac de riz. Alors, j'espère que l'année prochaine, la question la plus posée sera que faire de ces masques qui ne servent plus à rien, ou encore comment revendre 200 litres de gel hydroalcoolique. Mais en attendant, joyeux Noël.
Voilà. Et le test au cinéma le 29 décembre avec Alexandra Lamy dans la bande originale et tout de suite Métronomie. Uneasy de Métronomie sur France Inter et dans la bande originale Alexandra Lamy pour le test en salle le 29 décembre. Alexandra, on va se promener dans les années de votre vie. On commence par l'année 91. Vous écoutiez souffle vital.
J'adore.
Paris.
Ah ouais.
Vous débarquez à Paris.
Complètement.
Vous quittez votre province.
Oui, mon Alès. Et j'aime
vous,
beaucoup.
Et mais vous quittez votre accent du Sud aussi définitivement.
Non, je l'avais quand même, mais pas quand je jouais. Ouais. Parce qu'on était au conservatoire de Nîmes et on avait la chance d'avoir une prof, Eugénie Oliver, d'ailleurs, que je remercie, parce qu'elle nous a appris à jouer sans accent. Et c'est très très dur de perdre un accent. Ouais. C'est extrêmement difficile.
Et pourquoi le perdre à tout prix?
Ouais, parce que c'est...
À l'époque, c'était
ouais,
mal vu.
Ouais, puis même aujourd'hui, je pense de voir un film. Ouais. Et puis on a tellement d'accents différents en France que... le bordel dans un film.
Et ça donne quoi votre accent? Ça donne quoi votre accent?
C'était un peu bonjour, je m'appelle Alexandra. C'était Chantal. Mais du coup. Et puis en fait, ce qui était terrible, c'est que je faisais. Nous, le problème, c'est les. Alors les hauts, évidemment, mais. Parce que c'est des hauts ouverts. Ouais. Mais c'est surtout les ans. Donc les maintenant, le peng et tout ça. Donc là, moi, je. Ouais. Donc parfois, pour pas montrer que j'avais mon accent, je disais. Tu viens tout de suite. J'ai essayé à chaque fois d'enlever tous les petits mots de maintenant, de pain, de vin, de trucs. L'enfer.
Comme dans les rédactions, quoi. Quand tu sais pas écrire un mot, tu prends le synonyme, comme ça, tu te dis, allez, au moins je suis tranquille, je vais pas perdre de points sur cette histoire. Vous débarquez à Paris avec cette envie de devenir comédienne, une envie, on l'a déjà évoqué de nombreuses reprises dans cette émission, que vous aviez un peu cachée aux parents.
Ouais, complètement.
À quoi ça ressemble cette arrivée à Paris, toute seule?
Je me rappelle, mon père, il avait un copain qui avait un tout petit appartement rue de la Verrerie dans le Marais, oui. Donc, ce qui était pas mal, c'est parce que j'étais quand même dans le centre. Et avec les toilettes sur le palier, c'était très sympa, moi j'étais tellement heureuse. Et en fait, je sors, il devait être, je sais pas, 22h, 23h, et je prends la rue de Rivoli et j'arrive, place de la Concorde. Et là, pour moi, mais c'était dingue, 22h, 23h, un monde de dingue, tu vois, la Tour Eiffel, le Champs-Élysées, je trouvais ça magnifique, parce que nous, à 19h, en général, les villes sont... Ben, il n'y a plus personne.
Ça s'arrête un peu.
19h, c'est vraiment... C'est la
tristesse. C'est un corbeau, hein.
Ouais, c'est un corbeau. Ouais. Mais je l'ai très mal fait, je me suis dit, oh, je me sens pas du tout de le faire.
C'est un corbeau.
Je ferai pas de bruitage dans un film,
ouais,
donc,
un animalier. C'est un corbeau, quand même, il y avait un truc un peu...
Ouais, ouais. Donc, c'était un peu là. Nous, on avait un bar, enfin, vraiment, c'était rien. Donc, d'arriver là, c'était, waouh, la ville, quoi. C'était extraordinaire et en même temps avec un petit vertige, quoi, en se disant, mais je connais personne, comment je vais faire pour avec ce métier? Mais bon, l'arrivée de Paris, puis c'est quand même une très belle, moi je pense, sans dire, c'est une des plus belles villes au monde, en vrai.
Et puis les cours Florent, c'est aussi l'occasion de se faire des copains, j'imagine.
Voilà, cours Florent, et puis surtout un que j'ai vraiment aimé, moi j'ai fait la comédie italienne, Commedia dell'arte, rue de la Gaîté, avec Attilio Maggiuli qui se bat pour garder son théâtre et qu'on essaye de soutenir, et il faut, parce que moi j'ai adoré faire de la comédie italienne, et d'ailleurs je dirais aux acteurs, apprenez à faire de la comédie italienne, ça apprend à jouer avec le corps, et c'est hyper important, et j'ai adoré cette école.
Vos premiers publics, c'était qui?
Mon premier public, c'était mes parents.
Oui, bon, moi ça.
Évidemment, donc ça c'était acquis.
Et les premières scènes, les premières représentations, même
la
dans
première
le cadre
représentation,
de l'école.
C'était avec Michel Galabru qui m'a laissé voilà, faire cette première pièce, cette première tournée. Et j'ai adoré travailler avec Michel, c'était un amour.
On passe à l'année 2004. Cette musique, Alexandra, pour illustrer ces années-là.
La bamboche.
Pourquoi cette musique
Le micro. Parce que là, on est tout fait avec votre pull. Non, mais il n'y a pas de souci.
Vous parlez dans la bouteille d'eau. Vous parlez dans une bouteille.
Ça n'a pas du tout. Regarde, j'ai bu des coups avec ma sœur hier soir, c'est peut-être pour ça. Non, mais ça, c'était vraiment là.
C'est vrai, en plus.
C'est vrai.
Ça se voit. Maintenant, ça se voit.
Maintenant, vous l'avez dit, ça se voit. Quelques années, ça se voyait.
Il y a une demi-heure, ça s'entendait, maintenant, ça se voit.
Dans une demi-heure, ça se sentait. Ouais.
Non, mais on adorait cette chanson. C'était vraiment... C'était pareil, c'était la liberté. On s'explose.
Et en 2004, Alexandra, vous êtes nommée au Molière dans la catégorie Révélation théâtrale féminine pour votre rôle dans Théorbe. Quel souvenir vous gardez de cette pièce?
Oh, j'ai adoré, de Christian Siméon, j'ai adoré. On avait fait après une autre pièce qui s'appelle La Vénus au Facochère, qui était géniale ouais. aussi. J'ai adoré, c'était une expérience extraordinaire. J'ai jamais eu autant le trac de ma vie, mais c'était formidable. J'ai adoré. Et puis de revenir un peu sur les planches aussi, parce que c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à Paris, j'ai démarré sur Un gars, une fille, mais moi, j'étais pas forcément la comédienne de comédie en fait. Ouais. J'ai appris la comédie avec Un gars, une fille. Moi, j'étais plutôt la tragédienne. Donc c'était très étonnant même de voilà moi qui voulais aller à la Comédie Française, tout ça. Et j'ai fait et génial hein, Un gars, une fille. C'est là où vraiment j'ai appris la comédie. Mais du coup, de revenir à ça juste après, c'était j'étais très heureuse de retourner sur les planches.
On passe à l'année 2012. Adèle,
magnifique.
Pour l'année 2012.
Ah ouais, complètement. Qui n'a pas écouté en boucle cette chanson?
Guillermo et moi, déjà. Ça fait deux.
C'est vrai.
Mais vous étiez où? Guy, il y a un micro. Si tu veux dire quelque chose.
Moi, aussi, qu'est-ce qui se passe?
Non, je dis juste que moi, j'écoute, c'est pas ça en boucle, mais c'est pas...
Non, mais ça, en boucle, mais quand même, c'était un carton mondial extraordinaire, quoi.
Alors, Guillermo?
Pardon, j'étais mouché, pas une fois de plus en streaming.
Et quand même, tu parlais de Daniel Craig, quand même. Écoute,
Daniel Craig. Tu fais chier.
Mais tu fais engueuler, pourquoi? Pardon.
Et 2012, Alexandra, c'est genre rage de son absence.
Ouais.
Le film réalisé par Sandrine Bonner.
Ouais, son premier film à Sandrine Bonner, ouais.
Où vous incarnez un personnage qui ressemble avec pas mal. Enfin, c'est assez troublant la ressemblance avec Sandrine Bonner.
Ouais, complètement. Mais ça, souvent un petit peu, j'ai remarqué. Ouais. J'ai fait beaucoup de films avec des réalisatrices. Ouais. Et à un moment donné, t'es au maquillage, j'ai dit tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que plus ça va, plus j'y ressens. Une espèce de projection comme ça de la réalisatrice qui fait. Mais je pense que c'est un peu pareil aussi avec le réalisateur et son acteur. Je pense qu'il y a une espèce de projection et au fur et à mesure, t'as l'impression qu'elle est en train de te modeler. Et tu te dis tiens, c'est marrant, te ressemble vachement.
Qu'est-ce que ça a apporté à votre filmographie, J'enrage de son absence?
Un peu de drame aussi, mais c'est comme un peu le film avec Ozon aussi, ça m'a amené... vous savez, on a besoin en France, une fois qu'on fait du drame, d'être estampillé comédienne, alors que tu te dis, putain, la comédie, c'est tellement plus difficile.
Ouais.
Mais, et puis quand même, et puis William Hurt, ça a été génial. Mmh. Et l'air de rien, ce film-là, ça m'a permis aussi... Ça a eu une répercussion sur Une chance de trop que j'avais fait de Harlan Coben, parce que c'est le seul film qu'il avait vu, mais puisqu'il me connaissait absolument pas. Et quand il a vu ce film-là, il dit, mais oui, bien sûr, mais alors, il était parti à fond en me disant que j'étais la plus grande comédienne au monde, etc. Il m'a envoyé un petit mot que j'ai placé sur mon bureau, parce que quand même, d'Harlan Coben, c'était pas mal. Ouais. Et donc, l'air de rien, comme il me connaissait absolument pas, il avait vu ce film-là, et il avait adoré, donc c'était, donc merci à Sandrine.
Ouais, l'occasion de vous découvrir.
Complètement.
2015.
Qui n'a pas écouté ça en boucle?
Toi non plus, ça ne va pas. Écoute, mais qu'est-ce que tu écoutes?
C'est un mec qui s'appelle Bob Marley.
Pourquoi Bob Marley, Alexandra?
Mais alors là, justement, transition directe avec Harlan Coben, parce que quand on a tourné Une chance de trop, bah on mettait cette musique-là à la cantine. Et Harlan Coben, donc évidemment un Américain, bien sûr, et qui, sur les tournages, en général, les États-Unis, c'est très... les équipes ne mangent pas avec les acteurs, c'est très séparé. Et lui, il est arrivé là, il a vu sur le plateau, alors là, la cantine, nous, évidemment, il y a la bouteille de rouge quand même si c'est interdit, mais quand même, parce que c'est quand même français, tout le monde fume, on met du Bob Marley, lui, t'as dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Et il a adoré, lui qui était hyper strict, il a fini, mais alors pareil, à picoler, à danser du Bob Marley à la cantine. Je dis, mais c'est génial, j'ai tellement aimé ce tournage.
Et cette série adaptée du roman d'Harlan Coben réunit plus de 8 millions de téléspectateurs, Alexandra. Mais c'était éprouvant quand même comme tournage. Je vous avais dit, il fallait que ça s'arrête un moment.
Ah ouais, bah à la fin, j'en pouvais plus. Et d'ailleurs.
Mais pour quelle raison? Pour le personnage, l'attention, le. Bah déjà, l'angoisse que vous deviez jouer.
Parce que Sidney Gallonde, le producteur, il a fait un coup de génie. Parce qu'en plus, c'était sa première production. Il parlait pas du tout un mot d'anglais. Il a réussi à obtenir les droits et à rencontrer Harlan Coben. Je sais même pas comment il a fait. Harlan Coben, il a dit OK, parce que c'était pas facile pour lui de vendre cette série en France. Parce que quand même, on est le plus gros point de vente. Donc il voulait pas décevoir. Donc c'était vraiment un risque qu'il a pris. Et il a dit, et puis avec un jeune producteur qui n'a jamais rien fait, quoi. Donc, et donc il a dit d'accord, mais à partir de, il faut que ça soit prêt fin septembre. Et nous, en fait, on a démarré le tournage, les textes n'étaient pas encore complètement terminés, donc on tournait la journée, on réécrivait le soir. on était morts. Moi, je faisais des impros. Alors, c'était génial parce que TF1 a été avec nous à fond. Et TF1, ils ont été super pour le coup. Et ils me disaient, c'est génial parce que nous, on a acheté un truc et puis on voit les rushs. C'est pas du tout ce qu'on a lu.
Mais détendu quand même.
Mais détendu quand même. Et puis le truc a été super. Et puis, bon, évidemment, la série était un peu dure. Il y avait aussi pas mal de drames. Donc, à la fin, c'est vrai que c'est épuisant. Même le corps, au bout d'un moment, il en peut plus, quoi. Il est un peu fatigué.
Et Harlan Coben vous a promis de vous écrire un rôle dans un film pour décrocher cette fois-ci un César et un Oscar.
Ouais, mais il est génial, mais encore à chaque fois, il m'envoie tout le
vous
temps.
Vous êtes au travail ou pas?
Ouais, il faut qu'on se voit là. Comme tout a été bloqué avec les frontières, etc. Mais il a tellement envie, ça a été tellement un tel bonheur, mais on s'adore, quoi, vraiment. Puis c'est un homme génial.
Vous le connaissiez avant, vous étiez une lectrice ou pas?
Non, pas du tout. Je connaissais évidemment Harlan Coben, mais j'étais pas une grande lectrice, évidemment. Mais si, quand même. De toute façon, ce qui est drôle, c'est quand même, ils vendent 17 millions de bouquins en France. Dans n'importe quelle maison, tu as un livre d'Harlan Coben.
C'est clair.
C'est dingue.
Guillermo?
Pas chez moi.
Voilà. C'est un livre qu'on lit en boucle. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais?
Je sais pas ce que je fous ici.
Tu es bloqué dans cette radio.
Il a de pression. Voilà, on va lui offrir du Harlan Coben pour nous. Ouais, voilà, si vous nous entendez, sous le sapin de Guillermo Guise, du Harlan Coben, comme ça, voilà.
Il n'y a pas de sapin chez Guillermo. Il n'y a pas de Noël non plus.
Sous le sapin, on peut mettre aussi des entrées pour aller voir Le Test au cinéma le 29 décembre, un film d'Emmanuel Poulain-Arnaud. Ben ouais, pourquoi pas des places de cinéma, ça peut être un joli cadeau. Et pour inciter les gens à retourner au cinéma, pourquoi pas.
Complètement, il faut. Sinon ça va être difficile, ça va être dur, et puis pas sans faire et il faut que les jeunes aillent voir un peu les films français aussi, parce que franchement on n'a pas beaucoup de soutien, et même parfois des jeunes qui font ce métier là et qui ne vont pas voir les films français, je dis il faut quand même qu'on se soutienne, parce que sinon on finira un peu comme l'Italie, le cinéma risque de disparaître maintenant que les gens ont pris l'habitude aussi. Alors c'est génial, moi je viens de la télé, j'adore la télé, je trouve que c'est formidable, mais il faut pas qu'on perde notre cinéma quand même. Donc il faut quand même retourner en salle,
reprendre le chemin des salles.
Et on fait des beaux films, là, je regardais quand même, on a des beaux films français, on n'a rien à envier aux Américains, ils font aussi de la merde, parfois, hein, faut pas charrier.
Le test avec Alexandra Lamy qui incarne cette mère de famille à la tête d'une petite ribambelle d'enfants, des adolescents, et justement avec notre spécialiste du jour, Jessica Hollander, bonjour.
Bonjour.
On va parler de l'adolescence, vous êtes formatrice et auteure praticienne en psychopédagogie positive, vous avez écrit « La crise d'ado n'aura pas lieu » aux éditions Solar.
Bah vous êtes trompée.
Merci madame.
Ça commence par un mensonge, on est mal.
Voilà, Jessica, bienvenue, vous avez vu, on a le sens de l'accueil dans cette émission. Au secours mes enfants sont ados. Que dois-je faire?
Ben, fuir. C'est le mieux. Très loin. Garder le sens de l'humour, je crois.
Ouais.
Et puis prendre soin de soi en tant que parent. Je crois que ça aussi, c'est assez fondamental. Les écouter. Parce que même s'ils ont envie d'être super autonomes, ils ont encore hyper besoin de leurs parents.
Ouais.
Et voilà, un peu d'attention, un peu d'humour et un peu de fuite, ça marche bien.
On n'est pas préparé à ça quand on est parent. On a été ado pourtant, mais on a oublié. Les générations ont changé. À quoi ça tient?
On oublie. C'est ça. Et en fait, c'est ce que je propose souvent aux parents. Rappelez-vous de votre propre adolescence. Et en fait, ça rend un peu plus empathique.
Oui.
Et puis se rappeler aussi que nos ados, en fait, c'est jamais contre nous. Parfois, on peut prendre contre nous ce qu'ils font, ce qu'ils disent, etc. Et ouais, se rappeler juste qu'en fait, ils sont dans un espèce de tsunami de développement, et qu'en fait, c'est l'explosion à l'intérieur d'eux, et que donc en fait, s'ils claquent des portes, s'ils nous répondent hyper mal, c'est jamais contre le parent. Et voilà.
C'est les hormones, c'est tout ce qui se met en place. C'est quoi les premiers signes d'une crise d'adolescence? Comment on les repère? Parce qu'on dit que les crises d'ado maintenant commencent de plus en plus tôt. Avant,
ils finissent de plus en plus tard.
Hein. Ah, il y a peut-être un.
Cette période de 25 ans,
jusqu'à 20
ans,
hein, il paraît que. Mais c'est vrai ou pas?
Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, c'est une phase de développement. C'est une phase de développement humain et ça finit à 25 ans, tout à fait juste, Alexandra, bravo.
Oui. Ouais. Elle en a 24, j'ai encore un an.
C'est plutôt sur la fin là. Les bras trop longs, ouais, ça c'est physique. Mais en fait, on dit souvent, en fait, le corps change. Ouais. Et donc en fait, on va pouvoir avoir des bras qui sont plus longs que le buste, etc. Mais ça c'est vraiment.
Non, mais chez les humains, ça se passe pas.
Chez les humains,
c'est un problème de proportion, donc là.
Exactement, problème de proportion. Et puis les émotions aussi en vrac, les portes qui commencent à claquer, et surtout le besoin de séparation. en fait, avec le parent. Donc, en fait, quand les enfants commencent à s'opposer un peu, franchement, quand vous leur dites, c'est comme ça, et puis qu'ils vous dites, non, là, ça commence à être la crise. Alors, moi, je préfère parler de passage. C'est pour ça que c'est vraiment une phase de développement et un passage entre l'enfance et l'adulte. Ouais. C'est ça.
Plus de câlins, plus de rapports, peut-être moins, en tout cas.
Moins, ouais. Beaucoup moins. Et une fois de plus, c'est pas contre le parent. C'est juste qu'il y a besoin de cette séparation. Et moi, je pense, j'ai une grande pensée pour les parents et le livre a été écrit pour eux justement parce qu'en fin de compte c'est quand même une sacrée épreuve aussi pour les parents qui vivent une séparation eux aussi à un moment qui est en fait souvent une crise de milieu de vie pour un parent et du coup en fait il y a vraiment deux choses qui s'entrechoquent comme ça. C'est pour ça que je pense qu'il est important que les parents prennent soin d'eux aussi, en tout cas qu'ils s'écoutent aussi et qu'ils se demandent ce dont ils ont besoin pendant cette période-là, qui est pour eux aussi une séparation, et c'est pas simple de se séparer de son enfant.
Est-ce que l'adulte peut aussi traverser une crise d'adolescence en même temps que ses propres ados ? Dans le film, on voit qu'il y a une forme de... les enfants sont un peu plus grands, ma situation conjugale est un peu compliquée, j'ai besoin aussi de penser à autre chose, de voir les choses différemment. Est-ce que ça peut être concomitant dans une même famille ?
En fait, c'est pas vraiment une crise d'adolescence, mais en fin de compte, un être humain dans sa vie a plusieurs... crise entre guillemets de développement et en fait quand on a un enfant ado on est à peu près sur une grande phase de au milieu de notre vie, donc en fait c'est une crise de milieu de vie et donc dans des crises on se questionne et on se demande on a des questions existentielles qui reviennent, donc oui on peut être aussi dans une phase de crise entre guillemets et en fait c'est pour ça qu'il est important de s'interroger, de s'observer, de regarder ce dont on a besoin et surtout de penser à cette histoire de séparation. En fait on passe d'une famille à un couple ou alors plus de couple, mais en fait du coup c'est vraiment un vrai passage. Donc en ce sens ça peut être très déroutant pour le parent aussi quoi.
Merci Jessica Hollander, je rappelle vous avez écrit La crise d'ado n'aura pas lieu aux éditions Solar.
Merci.
Daniel Morin, est-ce qu'on n'aurait pas aujourd'hui un héros du jour ?
Mais oui, tous les jours il y a un héros du jour, enfin oui, un super héros là.
Aujourd'hui mon héros c'est Denis Brogniart.
Ah.
Denis Brogniart, pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'homme lisse et poli que TF1 nous sert depuis 20 ans. Non, cet homme, les pieds dans le sable, en chaussures, qui met en valeur la résistance de l'homme et de la femme face à l'épreuve dans l'enfer des tropiques quand il faut bouffer, je ne sais pas, de la couille d'iguane ou tenir sur un poteau en équilibre sur un orteil, il n'est pas le cliché qu'on nous sert. Non. On apprend que c'est un homme comme les autres, qu'il est friable, que comme tous les hommes, au fond de lui, un petit salaud sommeille. Il a la tête d'une émission qui s'écroule parce qu'elle est basée sur la triche. Oui, les affaires de triche qui secouent le jeu star de la première chaîne européenne nous montrent à Denis Brogniart humain. Pour tous ceux qui seraient passés à côté, on reproche à certains candidats d'avoir bouffé en cachette, ce qui est rigoureusement interdit. Dans Koh-Lanta, tu dois souffrir et manger exclusivement le produit de ta chasse ou de ta pêche. Eh bien non, non, l'homme du 21e siècle n'est pas un surhomme, il déteste la privation. Et quand c'est nécessaire, eh bien il triche. Quand il en a marre de bouffer du kiwi pas mûr et de la coquille de crabe vide, et ben chez l'autochtone, il se fait un burger de pangolin. Oui, parfaitement, il triche et il a raison. Qu'est-ce que c'est que ces manières de vouloir priver l'homme ? À quoi ça sert l'évolution de l'espèce si c'est pour avoir la dalle ? Bravo Denis Brogniart, vous n'êtes pas niant. Votre émission est une arnaque monumentale et ça c'est bon à savoir pour les générations futures. Oui les enfants, à deux jours de Noël, c'est bon que vous compreniez que l'effort et la privation, ça ne paye pas. Ça n'a jamais payé. Pour s'en sortir, le travail, l'effort, tout ça c'est des conneries. La seule façon de s'en sortir pour réussir, c'est de marcher sur la gueule des autres. Et quoi de mieux pour réussir ? La gruge ! La triche ! Vous croyez que le Père Noël, il a juste un petit atelier en Laponie avec 15 lutins qui bossent pour fabriquer des jouets en bois qu'il va distribuer sur un traîneau avec sirène ? Bien sûr que non ! Le Père Noël, c'est ce qu'on appelle un capitaine d'industrie moderne. Il est installé à Pékin, dans une usine géante, où travaille toute l'année, 24 heures sur 24, des milliers d'ouvriers mal payés. Il porte pas un costume rouge miteux. Il est habillé en courrèges, dans une petite jupe ajustée, style 60s, qui coûte une blinde. Et les jouets sont distribués par Amazon. Ça fait longtemps qu'ils sont morts, les reines d'origine. Noël, c'est que de la triche.
Non.
Et cette triche, il faut qu'un jour, elle tombe le masque. C'est pour cette raison que j'en appelle solennellement. À Emmanuel Macron.
Voilà.
Président, notre société est malade de ces enchaînements de mensonges qui nous plongent dans un univers aussi parallèle qu'anesthésiant. Monsieur le Président, un homme remarquable, appelé Denis Brognard, vient de reconnaître avoir participé à une vaste escroquerie qui porte le nom de Koh-Lanta. Koh-Lanta, véritable hymne à l'effort et au dépassement de soi qui, en réalité, n'est que bullshit. Président, je vous demande de laisser une petite place dans votre gouvernement à Denis Brognard. Oui, nommez-le ministre de la gruge. Une fois par semaine, il pourra intervenir pour dire « Ok, c'est vrai, on a triché, mais on ne recommencera pas et le menteur sera puni. » Et pour rester dans l'esprit Koh-Lanta, vous pourriez, Président, arriver et éteindre le flambeau du ministre menteur en disant la phrase culte. Imagine si tu avais été président en 2012. Jérôme Cahuzac, tu as menti. J'ai décidé tout seul et à l'unanimité de t'éliminer. Ma sentence est irrévocable. Tu vides ton casier et tu t'en vas.
Bravo. On est toujours avec Alexandra Lamy dans la bande originale. Guillermo Guiz, bonjour. À nouveau, de quoi est-ce qu'on va parler dans un instant après les infos?
Quand on me voit, on pense quoi? Culture.
Oui.
Évidemment, mais je ne vais pas parler de Bob
culture
Marley,
de quoi aussi,
ni d'Adèle, ni de Harlan Coben. Que de culture un peu.
Eh bien, on voit ça après les
génial.
Infos. Morgane Cadignan, avec Guillermo Guiz, Tom Villa,
bonjour.
Daniel Morin,
bonjour.
Notre invité, qui? Alexandra Lamy. Alexandra Lamy qui n'est pas partie après toutes les explications sur la crise d'adolescence. Le test en salle le 29 décembre, réalisé par Emmanuel Poulain-Arnaud avec Philippe Catherine. D'ailleurs, c'est pas la première fois que vous êtes réunis dans un film avec Philippe Catherine, Le Poulain, je crois.
Exactement, ouais. Le Poulain, écrit aussi, co-écrit d'ailleurs avec Noé Debré. Exactement. Ouais, et j'adore, moi, mais Philippe.
Relation vous avez avec Philippe sur un plateau? Parce
que
on l'a reçu il n'y a pas longtemps pour la pièce rapportée.
Mais c'est super, Philippe, c'est un bonheur. Mais moi, je voudrais être la Claude Jansac de. De Philippe, je vais faire tous les films de Philippe, je vais être la femme tout le temps de Philippe dans les films.
En référence à Louis de Funès, qui tournait toujours avec elle.
Mais j'adore.
Philippe Catherine, président, vous êtes Premier ministre.
Ah oui, ben vous savez qu'il veut faire, il veut montrer un gouvernement de mignonisme.
C'est quoi?
Mignonisme, c'est-à-dire que tout le monde doit être mignon.
Alors, c'est un
mouvement. Donc moi, je suis la Première ministre. Donc là, on est en train de monter ce gouvernement. Mais c'est un homme extraordinaire, mais un artiste, un poète, d'une gentillesse. Enfin, on a toujours l'impression que c'est très péjoratif de dire gentil, mais qu'est-ce que ça fait du bien aujourd'hui? Vraiment, c'est un vrai bonheur.
Ça compte de plus en plus dans vos choix de films, les partenaires?
Oui, un peu. On a un peu marre des caisses, voilà. Ah.
J'aime bien l'enthousiasme. Ouais, un peu.
Oui, parfois il y a des trucs qui font « Oh, j'ai pas envie de me faire du mal. »
Ouais, donc plutôt choisir un maximum ses partenaires,
oui,
ou en tout cas voir
bien,
si ça correspond.
Oui, moi j'aime bien quand tout va bien, quand on est heureux, les gens m'aiment et tout ça. Moi je suis très bisounours. Hein.
Vous l'avez tourné quand ce film?
On l'a tourné donc en septembre dernier.
D'accord.
Pas celui-là, celui d'avant. Et donc on a subi complètement le confinement, le couvre-feu. Mais ce qui a permis aussi de créer cette famille,
cette bande.
Que je disais. Ouais.
Cette bande.
Ah, complètement.
L'histoire de cette famille. Et vous, Alexandra Lamy, Annie à la tête de cette famille. Quatre enfants, un mari gériatre, quatre enfants différents. Hein. Le plus grand doit avoir une vingtaine d'années, le petit dernier 5-6 ans à peu près hein, dans ces eaux-là. Et la découverte d'un test de grossesse dans la corbeille poubelle de la salle de bain. Et tout de suite se demander qui est à l'origine de ce test de grossesse. Est-ce que c'est votre fille? Est-ce que... Alors le petit dernier, on le laisse de côté, hein. On se doute bien que c'est pas encore lui. Mais il y a quand même deux grands garçons qui ont soit une amoureuse, soit une multitude de partenaires, et quel que soit l'âge d'ailleurs, on sent que c'est un garçon qui est très très ouvert, voilà. Donc à vous de mener l'enquête pour déterminer qui... Alors ça peut être aussi éventuellement le mari.
C'est marrant, ça pourrait être un cluedo d'un nouvel
nouveau ordre, genre.
Qui a mis qui ensemble.
Ouais,
Et on peut avoir un doute sur le mari.
Bien sûr.
Parce qu'on se rend compte que ce couple bat un petit peu de l'aile et que il y a une tierce personne, il y a une sorte de triangle amoureux, disons-le comme ça, avec des scènes très très drôles.
La
rencontre est assez exceptionnelle. Donc ça peut aussi venir de lui. Venir de lui. Tu repenses à la scène. Tu revois la scène.
Non, mais cette scène est tellement drôle. Mais c'est tellement drôle. Mais c'est vrai, il y a vraiment de tout dans ce film. C'est drôle, c'est touchant. C'est vrai qu'effectivement, elle mène son enquête. Et bien, il y a un peu ce côté
Cluedo
entre guillemets. Quoi. Elle mène son enquête. Et puis, effectivement, elle va découvrir aussi sa famille.
Ouais.
Et elle va se découvrir aussi elle-même. C'est vrai que c'est marrant parce qu'on a fait une avant-première et ma sœur était là. Elle me dit ça donne encore envie de faire des enfants. Puis après, elle fait remarque. réfléchi, mais c'est tellement un film sur la famille, c'est tellement, ça donne envie, quoi, parce que d'être dans cette famille.
Sur cette belle bande d'ados qui vous entoure.
Thundercloud,
ouais, absolument. Interprété par Sia, notamment, avec aussi dans la bande-son la redécouverte de la jeunesse de votre personnage, Annie. Cannes. Parce que cette famille plutôt tranquille, hein, pour voisinage, un jeune homme,
ouais.
Un peu seul d'ailleurs.
Un jeune homme qui est tout seul.
Hein. Ouais.
Et ben voilà, ils vont se trouver tous les deux. Et ça va lui faire beaucoup de bien.
Absolument, on va le dire comme ça. Ils vont se rencontrer. Voilà,
exactement.
Et ils vont se raconter aussi leur solitude, finalement.
Complètement.
C'est aussi ça.
Ouais, exactement. Parce que c'est un film aussi sur la famille, mais aussi sur des solitudes. Mm. Complètement, parce qu'on les, enfin, et chacun d'ailleurs a des moments, mais parce que dans la vie, on a des moments aussi de solitude. Et effectivement, ils vont se retrouver, voilà, ils vont effectivement, parler de leur solitude.
Qui est responsable de ce test de grossesse? Qui est enceinte ou qui est le père de ce petit à venir?
Complètement.
Ça, on va le découvrir dans le test en salle le 29 décembre. Et on souligne à nouveau vraiment ce scénario coécrit par Emmanuel Poulain-Arnaud et Noé Debré. Parce ouais. que c'est vraiment une réussite de ce point de vue-là. Vraiment aussi.
Ouais,
vraiment.
Ah ouais.
Ça marche très très bien. Ça va marcher un tout petit peu moins bien parce que tout de suite, c'est Guillaume Auguise.
C'est les lancements de Nagui, c'est pas
grave.
Même Nagui, c'est pas ça.
C'est du costaud, ce que t'as nous dit.
Ça va, les amigos?
T'as l'air drôle, là.
Elle t'a mis la pression.
Ouais, on est le 23 décembre. Demain soir, c'est le réveillon. Et dans ma famille, Noël, ça les excite de ouf et tout. Et moi, genre, ça fait 6 jours, j'essaie d'attraper le Covid, quoi. Franchement, je me suis mis sur Tinder cas contact, tu vois. Que des rencontres à risque, tu vois. Un strabisme, c'est pas grave. Un passe sanitaire, tu dégages, vraiment, tu vois. Moi, la vue d'un sapin, ça me donne envie de crever dans une chip de légumes, quoi. Vraiment. Et tu sais, je mange pas de viande. Ma sœur, elle m'a dit, je te préviens, cette année, je fais une dinde. Genre, les autres années, tu faisais un acromesti de concombre. Elle sait que je suis végétarien, mais elle sait que j'ai pas d'autre famille, quoi. Je vais aller où? Tu sais, déjà, un célibataire, il va manger seul dans une autre famille à Noël. Tu vois, c'est pas un célibataire, c'est un sans-abri. Tu vois, la famille, c'est les restos du cœur. Vraiment. Moi, je vais voir la dinde dans mon assiette. Je vais lui faire, bah, je te promets, frère, c'est pas contre toi. Là-bas, je suis un allié de la cause, vraiment, quoi. 23 décembre. By the way, c'est la dernière chronique de 2021. Putain, quelle année, quoi. Mieux que 2020, je dois dire, je sais pas si vous vous rappelez où on était l'année passée à la même époque. C'était horrible. On était ouais. tous en studio avec des masques à l'antenne. Heureusement, c'est derrière nous, tout ça, tu vois. Le Covid, t'as pas l'impression que c'est juste un truc qui vient de chez Apple? Genre, il y a une keynote tous les 6 mois en mode, alors on a une petite nouveauté à vous présenter. Si je vous dis mise à jour sur la protein spike, vraiment, alors ce qui est vrai, c'est que l'année passée, à la même époque, on avait plus de vie. Par contre, je galérais, moi, pour trouver des sujets de chronique. Vraiment, dès que je voyais quelqu'un traverser là, au feu rouge, j'étais là, yes! Merci, j'arrivais ici en disant, vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé. J'étais 3 minutes, tu vois, avec une morale à la fin, genre, le capitalisme, ça rend les gens inconscients, non, vous trouvez pas? Et c'était des angles inoubliables, tu vois, à côté de Daniel et Mimine, c'était Raymond Aron, quoi. Je te dis, du coup, quand j'avais vraiment rien, j'arrivais avec un conseil culture. Ça marchait, ces chroniques-là. C'est vrai, ils m'ont appelé le masque et la plume et tout. Ils m'ont dit, Ernesto, fils du jambon cuit, on veut ton corps, on veut ton âme. Et j'ai failli dire oui, parce que je trouve que le masque et la plume, ça manque d'un regard d'un homme blanc hétérosexuel sur la culture. Je veux dire, à un moment, la diversité, c'est bien, mais quand il y a trop, ça va. Alors, donc, la dernière chronique de l'année, c'est aujourd'hui, je vais vous parler de mes coups de cœur culture 2021, et pas du tout parce que je serai en galère de sujets. Alors là, pas du tout. Des sujets, j'en ai une ribambelle. Avant-hier, j'ai encore vu un homme dans la rue, il avait son masque sous le nez. Capitalisme, ça rend les gens inconscients ou quoi? Bon, alors, coup de cœur culture. En art, moi, ce qui m'a bluffé cette année, c'est l'installation de la plasticienne néo-zélandaise, vraiment Tania Lyndon Guthrie au Guggenheim. Je trouvais que c'était rarement l'art plastique a su allier forme innovante et...
Franchement, j'ai peur, pas du tout.
Qui s'est dit, c'est pas du tout l'homme que je croyais. Je vais devoir le respecter, ce garçon. Qu'est-ce qui m'arrive, tu vois, après 6 ans de mépris, tu vois, comment je vais faire? Non, un livre que j'ai adoré cette année, c'est L'inconnu de la Poste. L'enquête incroyable sur cet acteur marginal accusé de meurtre. Alors, autant j'ai adoré le livre, autant j'ai jamais su si on disait Florence Aubenas ou Florent Aubenas. Vraiment. Je rêve d'une communication officielle. En première partie, il y a un discours de Macron français. En vrai, on dit Aubenas. Allez, je passe la parole au président. Je suis sûr, elle fait ça le CAC 40, il prend 30%, l'OPEP fait des gratuités et tout. Vraiment, c'est la folie. Bon, niveau musique, c'est l'album d'Orelsan, Civilisation. Formidable. Il capte trop bien l'état de la société, Orelsan. En fait, Orelsan, c'est Michel Houellebecq avec des cheveux propres. Tu vois, et un bon fond, quoi. Tu vois, c'est vrai. C'est vrai, je comptais écrire un programme de spectacle, j'ai écouté l'album de Ressal, j'ai fait c'est plus la peine quoi, tu vois. Je vais continuer à faire des chroniques, hein, du coup. Bah, ça tombe bien, histoire folle, l'autre jour, mon chauffeur Uber est passé au Orange. Le capitalisme, ça rend les gens inconscients. Alors, en série, je pourrais vous dire Succession, tellement ciselé, évidemment, je crois qu'ils ont, le même dialoguiste que le film All Inclusive. Vraiment, c'est très bien qu'il y ait des passerelles comme ça entre le ciné français. une série que j'ai beaucoup aimée, c'est Colin in Black and White, sur la vie du footballeur américain et militant Colin Kaepernick. Ça décrit le racisme, mais c'est vraiment formidable. Pas le racisme, hein. Raciste, c'était formidable. Pas du tout, non. C'est, tiens, une ponctuation, ça joue. Alors, documentaire 2021, c'est Les Rois de l'arnaque, forcément, qui parle de l'escroquerie à la taxe carbone. Le film est fou. En revanche, je suis moins sûr de l'accueil médiatique qu'on fait à Marco Mouli, quoi. Il est partout.
C'est clair.
Je suis même Riyad Sattouf, il trouve que c'est beaucoup, tu vois. Alors que, franchement, Marco Mouli, il va remplacer François Morel à la matinale, tu vois. Ce serait fort d'empêcher Nicolas Devran qui fait Marco Mouli, c'est à vous. Avec Dominique Seux qui fait c'est mon gars. Alors, je finis par mon film préféré de 2021. Fragile d'Emma Benestan. Il y a un acteur formidable dedans, un belgo guatemaltèque, fan d'art plastique. Il y a une morale incroyable dans le film. Ça dit, la société capitaliste, ça rend les gens inconscients. Allez, joyeux Noël, les amis, joyeux Noël!
Bravo! C'est un record du monde du débile hein, qui nous a fait vraiment la Guillermo.
Mais j'ai plus l'habitude avec,
le masque, je sais. Il faut voir donc Fragile, c'est ça. C'est, voilà. Il n'osera pas le dire aux doigts.
Il voit qu'il y a des acronymes qui ne parlent plus.
Il joue dedans, voilà, c'est pour ça. Oh. Faut pas le dire. Oh. Voilà, faut pas le dire.
Ah voilà.
Et le test en salle le 29 décembre avec Alexandra Lamy, notre invitée, Philippe Catherine, Joachim Fossi, Matteo Pérez, Chloé Barkov-Gaillard, cette belle famille. À vous de déterminer au fur et à mesure qui aurait pu être à l'origine de ce test de grossesse.
C'est un peu un thriller, ce film.
C'est un vrai thriller.
Un vrai thriller, ouais.
Un film complet.
C'est un mélange suspect et ce film.
C'est une comédie. Que se passe-t-il d'autre dans le monde de la culture ? Qu'a révélé la dernière enquête Sinégalité du collectif 50-50 ?
On n'est pas à 50-50.
Ouais.
Que 20%.
Et sur quel sujet en particulier ?
Une phrase voisin. Sur les réalisatrices.
Des catégories très spécifiques dans la représentation.
Non, mais des femmes racisées, non ?
Alors des femmes, des noms blancs déjà, comme c'est indiqué, et aussi des femmes de plus de
100 ans.
50 ans.
Plus de 50 ans, absolument. C'est une enquête qui s'appuie sur un corpus de 115 films qui sont sortis en 2019. Et en fait, on n'y est toujours pas. Le compte n'est toujours pas bon. Le secteur est encouragé à élargir ses récits. Quel regard vous portez justement ? Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi les femmes de plus de 50 ans sont assez souvent exclues des films ?
Je ne serais absolument pas concernée.
Et pourquoi la diversité, elle aussi, reste encore sur le bord de la route ?
J'espère que tout ça va évoluer, ouais. mais je trouve qu'aujourd'hui, et dans le cinéma d'ailleurs avant, et puis moi pour avoir passé quelques périodes comme ça, où avant on avait des rôles de femmes dans les années avec Romy Schneider, Simone Signoret, etc., on avait des femmes qui avaient des vrais rôles... Et puis d'un coup, on a eu aussi un truc qui a un peu disparu. D'un coup, on était devenus les nanas derrière, enfin les femmes derrière, un peu où on applaudissait à chaque fois l'homme parce qu'on trouvait ça formidable, mais c'était nous finalement qui lui donnait de quoi ramasser. Ouais. Et on a été un peu exclus. Et puis maintenant, je trouve que ça y est, ça revient. Et pas que parce qu'il y a des réalisatrices, hein, aussi parce qu'il y a des. D'ailleurs, Emmanuel, le réalisateur, il a fait un très joli portrait de femme.
C'est vrai.
Et c'est un homme. Parfois, c'est intéressant aussi d'avoir le regard presque du sexe opposé et qui peut voir des choses. Et je trouve que maintenant, ça y est, on revient un petit peu, les femmes reviennent un petit peu, on a maintenant on peut avoir des premiers rôles et des choses en plus à défendre. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est sûr.
Et vous, dans quelle mesure, justement, vous avez envie de collaborer peut-être avec certains réalisateurs et d'amener aussi des sujets ?
Oui, bien sûr. Non, mais j'y pense. Puis là, j'ai fait un premier film en tant que réalisatrice qui s'appelle Toucher, qui est tiré d'une bande dessinée de Quentin Zuiton. Et c'est Philippe Bouéfard, qui est un producteur de Nord-Ouest, et qui m'a appelé en me disant, écoute, j'ai une BD, j'aimerais que tu la lises et que tu me dises ce que t'en penses, etc. Et je pensais franchement qu'il allait me proposer de jouer dedans. Et en fait, non, il m'a demandé de le réaliser. Et j'ai adoré faire ça. Mm-hmm. Bon, en plus, c'est un sujet qui me touche parce que c'est un sujet engageant, c'est sûr, des femmes qui ont besoin de se reconstruire, qui ont subi des violences et qui ça passe par l'escrime thérapeutique.
D'accord.
C'est et vraiment moi je voulais quelque chose sur la reconstruction, surtout en ce moment avec tout ce qu'on se on sait, on a envie plutôt de d'avancer, de se dire maintenant qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc c'est vraiment un film sur la résilience et sur la reconstruction, c'est les petites victoires de la vie. Bref, et j'ai adoré faire ça en tant que réalisatrice et donc j'ai d'autres projets que j'aimerais faire
et quand est-ce qu'il sort?
On ne sait pas encore, ça sera sur TF1, c'est un film, parce que je trouve que justement, on parlait tout à l'heure de télé et de cinéma, et ça, c'est le genre de film, on a fait l'avant-première, on me dit, mais ça serait bien de le sortir au cinéma, bah non, parce que c'est, je pense qu'à la télé, justement, on peut toucher plus de gens, et ces personnes que je voudrais toucher sont celles qui n'iraient pas forcément au cinéma voir ça, et c'est ces personnes-là que j'ai envie de toucher. Donc, je pense, normalement, premier trimestre 2022, ouais.
Autre question, on avait reçu Gérard Jugnot et Artus pour le film Pourri Gâté. Le film avait fait à peu près 400 000 entrées en salle, mais il lui arrive une nouvelle aventure.
Il cartonne sur Netflix à l'étranger.
Absolument, c'est le film non anglophone le plus vu sur Netflix, comme quoi on peut avoir une seconde vie sur les plateformes. C'est complètement inattendu, c'est un carton assez fou.
Surtout qu'il est pourri le film.
Non, il est super le film. Non. Il y a eu environ 10 millions de visionnages complets.
Ah ouais, génial. Ouais. Je suis contente pour Nicolas Cuche, que j'adore.
Est-ce qu'il y a des films comme ça que vous avez récupérés sur le tard sur les plateformes que vous n'aviez pas vu en salle? Les plateformes en général peuvent aussi servir à ça.
Ouais, bien sûr. J'ai rien qui me vient là comme ça. Ouais.
Vous regardez beaucoup? Vous regardez beaucoup les plateformes ou pas?
Oui, je regarde, bien sûr. Ben, c'est fait partie aussi de notre métier, bien de sûr. Tout regarder. Aujourd'hui, on a un éventail de choses à regarder qui sont assez extraordinaires à la télé aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs, on essaye de ramener au cinéma parce qu'il y a beaucoup de choses à la télé. On a des super sujets sociaux. Il y a des, on a de tout. Donc, oui, mais là, comme ça, j'ai pas de trucs qui me reviennent. Mais moi, je suis très cinéphile, donc je regarde beaucoup de.
Tom.
Et vous avez co-gagné avec Julien Arruti, LOL sur Amazon, divertissement en plusieurs épisodes, et il y a la saison 2.
La saison 2 qui va être mais tellement démente. Mais vraiment.
Alors, dites-nous un peu plus.
Et je vais vous dire qui a gagné.
Yes, c'est Gérard Darmon.
Ça sera le petit cadeau de Noël et Amazon va être très content que je dise ça aujourd'hui.
Puis ils sont hyper souples sur les règles.
Non, mais bon, la distribution, elle est tellement démente. Eric et Ramzy, Camille Lelouch, Panayotis, Gérard Darmon.
Alors, c'est quoi le...
Et en fait, le but du jeu, c'est effectivement de retrouver donc une dizaine d'acteurs, de comédiens, de gens qui font du stand-up, etc. Et le but du jeu, c'est de se faire rire, mais on n'a pas le droit de rire.
D'accord.
On a Philippe Lachaud, qui est le maître des cérémonies, et l'année dernière, je l'ai fait et j'ai gagné. Et cette année, donc, ils m'ont demandé de revenir et d'accompagner Philippe Lachaud pour suivre là. Et c'est, mais... tellement drôle. Mais moi, heureusement que j'étais pas là cette année, par contre, parce que je pense que c'était ça aurait été très, très difficile.
Ça veut dire quoi? Vous préparez des blagues en amont?
Mais en même temps, moi, quand on m'a proposé ça, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais parce que je me suis dit, ça me faisait penser un petit peu à l'époque avec justement Gérard Jugnot, etc., où on pouvait avoir un endroit comme ça, le café-théâtre un peu, où on pouvait avoir un endroit où on pouvait être libre de faire ce qu'on voulait. Je me dis, si ça marche, ça serait génial de pouvoir mettre dans une pièce des acteurs de n'importe quel... Enfin, de partout, et qui puissent effectivement essayer de se faire rire, sans rire, parce que c'est effectivement le but. Et je trouvais que c'était franchement une liberté extraordinaire, et Amazon, ils sont assez forts pour ça, parce que d'abord, ils mettent les moyens, donc on dit ça, mais justement, je l'aurais peut-être pas fait sur une autre chaîne, mais sur une plateforme, on peut faire ce genre de choses parce qu'ils mettent aussi les moyens pour ça. Et c'était génial et c'était une liberté extraordinaire. Et j'ai adoré faire ça. Et alors là, cette année, là, la deuxième saison, mais c'est génial. Hein. C'est génial.
On a une date de sortie?
Non, pas
une
encore.
Zone de sortie?
Non, une zone de sortie. Amazon de sortie.
Et côté film, tournage, alors vous allez réaliser à nouveau? Vous avez des projets déjà? Est-ce qu'on peut parler de certaines choses ou pas du tout?
Non, pas encore.
Voilà. Mais en tout cas, vous prenez un plaisir fou à réaliser.
Ouais, j'ai adoré.
Qu'est-ce qui vous a fait passer le pas? Vous avez dit cet appel-là, mais
ça m'a toujours titillé, moi. J'ai toujours aimé ça. Et puis, même jeune, j'écrivais beaucoup. J'ai toujours aimé faire des spectacles, raconter des histoires. J'ai toujours aimé ça, mais je me suis jamais... j'ai jamais eu l'opportunité aussi de me lancer. Et là, Philippe... Enfin, vous savez, c'est dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui vient vous donner quelque chose. Et je me suis dit, allez, j'y vais. Finalement, j'ai toujours eu envie de faire ça. Et j'ai tellement adoré faire ça. Mais j'espère que je viendrai vous en parler.
Avec plaisir.
Parce qu'en plus, c'est un sujet important, et c'est un sujet important dans le sens de d'avancer aussi. Les petites victoires de la vie sont tellement importantes.
Et côté rôle, actrice, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a dans les prochains mois ou dans les
tournages prévus ? Pour l'instant, je ne sais pas trop encore. Ouais,
d'accord. Donc voilà. on en parle
je
pas.
Lis, je ouais. regarde, mais ouais. Mais il y aura peut-être un truc très très fort qui va arriver, et avec ma sœur, alors je pense que mon attaché de presse doit regarder, elle me fait « Il faut pas en parler !»
Elle parle comme ça.
Sans en parler comme ça. Mais on a un projet, bien. Toutes les trois, ma sœur, ma fille, pour justement une plateforme d'une série, et je pense que ça va être génial. Voilà. Et je ne vous en dis pas plus.
C'est hyper bien dit.
Là-dessus, je repars.
Et je sors
de champ.
J'adore faire un truc comme ça.
Mon manteau, je m'en vais.
Le livre dehors, mes gants.
Sortie de champ, Alexandra Lamy, salut. Le test en salle, le 29 décembre. On le rappelle, cette super comédie. Voilà, film réalisé.
Courrisy, hein, vraiment.
Courrisy le voir, c'est tellement bien écrit.
Tu viens à Courrisy, évidemment.
On dirait le nom d'une ville de banlieue. Courrisy le voir, en 92 ans.
À l'écriture, Noé Debré, Emmanuel Poulain, Arnaud, avec l'excellent Philippe Catherine et les non moins excellents Joachim Fossi, Matteo Pérez et Chloé Barkov-Gaillard. J'ai pas le nom du petit dernier.
Antoine, mais j'ai pas son nom de famille non plus.
Voilà, le petit Antoine Chouchou. Aussi, quand
ouais,
même.
Qui est tellement génial.
Qui fait partie mignon. De la fête.
Enfin, qui a 17 ans maintenant.
Il y a 17 ans aujourd'hui.
À vous de déterminer avec ce film le test qui va venir semer un peu la pagaille dans cette famille, mais une pagaille qui va permettre de mieux révéler les liens entre les uns et les autres et l'affection qu'ils se portent. Il est temps à présent, ma chère Alexandra Lamy, de vous présenter des excuses. Daniel.
Déjà oui, désolé pour vous Alexandra, Alexandra Lamy qui pensait en toute logique, se retrouver ce matin face à Nagui. Eh ben non, quand il a découvert le film que vous veniez présenter, il a mis des coups de tête contre les murs et s'est mis hurlé. Moi, je bosse pour oublier ma vie perso. Mais là, à part les tests de grossesse, merde, ça me rappelle trop mon quotidien. Si tu savais le nombre d'enfants que j'ai pas reconnus et le nombre d'enfants qui ont pas voulu que je les reconnaisse, tu comprendrais ma colère. Alors c'est gênant, d'accord, mais c'est quand même touchant de sincérité de sa part. Désolé pour Philippe Catherine qu'on avait reçu il y a une quinzaine de jours avec Anaïs de Moustier et qui aurait aimé être avec nous ce matin. Il m'a confié à la pause qu'il aurait sûrement mieux défendu le film que vous, car je cite, il dit « L'ami, elle est sympa, elle est dans la vie comme dans le film, étouffante et souvent défoncée. » Ok, Philou, ça y est, le message est passé. Désolé pour tous les producteurs qui rêveraient d'adapter le scénario de Tom Villa qui s'intitule, je le rappelle, « Ça sent les mamans ».
C'est vrai.
Nagui, depuis sa cellule de la prison du port d'Alexandrie, a entendu l'émission et il vient m'envoyer un texto pour me dire qu'il avait acheté le concept. Toujours sur les bons coups, hein, le fils des pyramides. Et enfin, désolé pour la SPA, la Ligue de protection des animaux et tous les amoureux des volatiles qui n'ont pas forcément reconnu cet animal. C'était Alexandra et on était sur, je sais pas, le corbeau, le crapaud, enfin bref, le talent. Elle a tous les talents.
Merci Daniel Morin. Merci à tous autour de la table. Très très bonne fête de fin d'année Alexandra
merci
Lamy. Je ne sais
aussi.
Pas où vous envisagez de passer Noël, mais en tout cas on vous le souhaite doux.
Dans le sud, dans la famille.
Dans le sud, avec l'accent, bien avec entendu. L'accent. On vous souhaite à tous, en tout cas si on ne se revoit pas d'ici là, de belles fêtes. Et oui, demain, dans la bande originale, ce sera Léa Seydoux et Arnaud Desplechin pour Tromperie. Merci Alexandra.
Merci à vous. Bonne fête.